Et je passe maintenant la parole à Silvana Deleria, qui est chercheure à l'Université de Gênes, qui est spécialiste de Georgescu, qui l'a connu, qui a été son élève, et qui va nous parler évidemment de bioéconomie, mais cette fois en y adjoignant le terme de modération.
De
modération.
Et de consommation. Bioéconomie, consommation et modération. Je suis venu à connaissance de ces colloques lundi. Jusqu'à mardi soir, j'ai pensé de participer seulement pour écouter les autres. Et pour saluer Jacques Greenwald et Mauro Bonaiuti, qui avec moi ont été des élèves de Georgescu. Et en particulier, Bonaiuti et Greenwald ont contribué beaucoup à la connaissance de cet auteur dans l'Europe. C'est mardi soir que Mauro m'a proposé de parler pour faire une substitution ce matin. J'ai très mal dormi.
Ça se voit pas.
Merci. J'avais promis de lui donner une réponse le matin suivant, mercredi. Je suis ici. Même si l'on pense connaître suffisamment un argument, on a des problèmes. En plus, je ne pratique souvent votre langue, et c'est pour ça que je demande à Serge Latouche de me corriger si je vais faire des fautes. Sûrement. Tout d'abord, je vais répéter, mais il s'agit d'un exercice linguistique. Des choses que vous avez un peu déjà entendues à propos des raisons pour lesquelles Georgescu avait choisi la bioéconomie en contrepartie de celle qu'il nommait l'économie standard. Après, je vais dire quelque chose à propos de sa théorie de la du consommateur et à la fin, je parlerai de la modération, mais très peu. Jusqu'à partir du début de sa carrière, Georgescu attribuait toujours grande importance au phénomène qualitatif et au changement qui leur donne origine. Les changements surviennent à cause du déroulement du temps. C'est en cherchant d'expliquer ces faits, les phénomènes qualitatifs et les changements, qu'il développa une critique serrée à l'économie standard, laquelle analyse les systèmes économiques avec l'épistémologie mécaniste et les instruments arithmomorphiques surtout, c'est-à-dire avec des instruments mathématiques. En effet, le premier défaut de l'approche de l'économie standard consiste à nier l'évolution, parce que l'économie standard considère les changements seulement comme mouvements dans l'espace. Au contraire, Georgescu observait que les processus économiques n'est pas un manège, ne consiste pas dans un mouvement circulaire entre production et consommation. Les deux parties du processus possèdent une durée et surtout sont unidirectionnelles et irréversibles. Les processus productifs consistent dans la transformation d'énergie et matière libre en biens qui contient une valeur d'usage plus grande en rapport à celui des ressources employées, pour l'homme, bien entendu. La fin est la joie de vivre, satisfaite laquelle ce qui reste revient à la nature comme déchet. Pour Georgescu, le modèle scientifique auquel l'économie doit s'inspirer ne doit pas être la physique. La vraie mecque de l'économiste est la biologie qui explore les phénomènes évolutifs. L'évolution humaine, plus difficile à étudier que les modèles dynamiques linéaires, est caractérisé par le développement des instruments exosomatiques. C'est un terme qu'il a créé. Que les instruments exosomatiques sont des instruments qui l'homme a idée et construit à travers l'innovation technologique pour rendre plus facile son activité, mais ces instruments n'appartiennent pas à son corps. Alors l'évolution humaine est caractérisée par l'invention des parties de l'homme de ces instruments exosomatiques. Ce parcours a produit les suivants effets. Une dépendance toujours plus grande des ressources naturelles due à de basses entropies et la dégradation qualitative d'énergie-matière à vitesse croissante. Deux, la nécessité de contrôler les processus productifs et donc la division entre contrôleur et contrôlé, c'est-à-dire les divisions sociales et les classes. En particulier, les contrôleurs déroulent une activité dont on ne peut pas mesurer les résultats en manière objective. En plus, leur nombre peut augmenter grâce à la politique, au clientélisme, etc., du moment qu'ils se retiennent indispensables en vertu de l'augmentation de la complexité. Troisième conséquence, les divisions sociales font paraître les conflits sociaux à la suite des questions distributives. Georgescu jugeait très important étudier les effets de la distribution sur les systèmes économiques. Il retenait aussi que les pauvres vont gagner très peu de l'opulence et de la technologie des riches. Quatrième conséquence, notre dépendance des machines, modes, gadgets est devenue désormais une vraie maladie. Il suggérait qu'il faudrait baisser la population mondiale au niveau qu'elle pourrait être nourrie de manière adéquate par une agriculture organique. Il suggérait de décélérer la production dans les pays riches, mais aussi de construire des usines dans les pays pauvres. Il pensait que l'état stable était un mirage et le développement soutenable une berceuse. C'est dodo.
L'état stable, c'est l'état stationnaire.
Oui. Suggérer aussi qu'il faut changer nos valeurs. Non aux guerres, disait non aux guerres, non aux modes, non aux gadgets inutiles, oui à une plus grande quantité de temps libre à utiliser avec intelligence en renonçant à travailler toujours plus vite. En étudiant les économies surpeuplées, nous notons que pas tous les pays pauvres sont tels, ne sont pas tous surpeuplés. Georgescu avait observé que quand cette économie, le temps libre n'a aucune valeur et qu'elles peuvent marcher seulement s'il y a des travailleurs qui gagnent plus de sa contribution. Ce n'est pas par hasard qu'elle possède souvent des bureaucraties pléthoriques. Dans ces régions, la meilleure politique économique consiste à privilégier la production agricole individuelle et l'industrie à domicile. Mohamed Younous, qui a été son élève, c'est-à-dire l'élève de Georgescu, et qui a fondé la Grameen Bank, qui est l'auteur du banquier de Peuvre, a suivi cette règle avec succès dans son pays, le Bangladesh. Enfin, Georgescu croyait qu'il n'est pas nécessaire que ces économies percurent la même route des pays plus riches pour sortir de leurs problèmes. Dans la plupart de cette économie, la mécanisation de l'agriculture fait disparaître l'agriculture organique et augmente le chômage. Donc, Georgescu croyait que la décroissance serait nécessaire soit pour effectuer une industrie redistribution entre les pays, mais à cause des limites posées par les ressources naturelles et les déchets. Pour rejoindre ce but, il pensait que nous devrions changer nos valeurs. En réalité, s'il est vrai que l'homme produit et consomme pour obtenir la joie de vivre, c'est aussi vrai qu'il peut la rejoindre dans les pays riches avec une plus grande quantité de temps libre ou libéré, et pas seulement avec une majeure quantité de biens matériels. Dans tout cas, Georgescu nous informe qu'il faut tenir en compte des moyens avec lesquels on poursuit ses buts. Ce n'est pas la même chose gagner 500 euros en travaillant ou allant dans une banque avec un revolver pour faire une rapine. Et il faut tenir compte aussi de l'environnement social dans lequel on agit. En contraposition avec l'économie standard, selon laquelle les individus ont des comportements étroitement hédonistes, il soulignait qu'en réalité, beaucoup de personnes ne sont pas insensibles aux revenus autrui. Pour ces motifs, il serait nécessaire de tenir en compte les critères à travers lesquels chacun juge le bien-être de la communauté à laquelle il appartient. Il ajoutait que l'éclipse prolongée de la variable sociale comme coordonnée de la conduite de l'individu peut déterminer aussi sa disparition de la conscience de l'individu. Zamani, qui est un économiste très connu en Italie, et que peut-être plusieurs de vous...
Stefano Zamani, si. Un grand économiste de Florence.
De Bologne.
De Bologne.
nous souvient que ce que nous pensons à notre regard et au regard de nos possibilités détermine nos aspirations pour le futur. Et il ajoute, dans ce sens précis, la théorie du self-interest n'est pas moralement impartiale, bien que la majeure partie des économistes croient le contraire. Zamani pense qu'il est nécessaire que les économistes considèrent l'altruisme, comme faisait Adam Smith, et il est attentif au développement dans cette direction. Son intérêt au regard des œuvres de Georgescu a été sans doute motivé par les critiques incisives que Georgescu avait portées à la théorie du consommateur à partir des années 30. Une de ses principales contributions dans ces champs a été le principe qu'établit que les besoins sont irréductibles. Allons éclaircir ce signifiant. Le pain ne peut pas sauver personne de la mort par soif. Vivre dans un palais luxueux n'est pas un substitut de la nourriture, etc. Personne souffrira la soif pour arroser une plante. Ce principe origine de la hiérarchie des besoins. Platon l'avait déjà formulé, mais apparaît très complexe parce qu'il n'y a pas de correspondance univoque entre biens et besoins. L'eau pour servir pour boire et aussi pour laver la voiture. Georgescu distingue trois classes de besoins. Necessity, je traduis avec nécessité. Ce qui regarde des nécessités immédiates, essentielles pour la vie, eau, nourriture, repos, abri, dans cet ordre. Après, il y a conveniences, désir. J'ai traduit avec désir en français.
Besoin de confort, on peut dire.
Si, on a la même hiérarchie pour toutes les personnes qui habitent dans la même culture. Luxuries, caprices. Ils ont un caractère strictement personnel et changent à travers les individus. Les besoins humains essentiels sont comparables, pas réductibles et plutôt rigides. Dans ce cas, on peut évaluer la quantité qu'on demandera. la quantité de biens qu'on demandera pour les satisfaire. Les problèmes de comparabilité naissent pour les besoins des choses superflues. Le principe de la hiérarchie des besoins, contient des autres principes, c'est-à-dire les suivants. Le principe de la subordination des besoins. Lorsqu'on satisfait un besoin en bas de l'escalier, on crée un besoin plus élevé. Le principe de la subordination des besoins implique le principe des besoins saturés de Gossin. C'est-à-dire, on rejoint un état mental dans lequel on ne désire pas augmenter la consommation de l'objet qu'on désirait auparavant. C'est-à-dire que pour satisfaire un besoin supérieur, il faut rejoindre la saturation du besoin plus bas. Le principe de la croissance des besoins, le nombre des besoins paraît sans fin. Pour Georgescu, la théorie de l'utilité marginale de l'économie standard a construit son édifice seulement sur le principe de Gossin, en l'interprétant en manière erronée. Ce principe, en effet, affirme que l'intensité du plaisir change dans le temps quand on varie la quantité du bien. C'est-à-dire que le temps est nécessaire, pas seulement pour produire le bien, mais aussi pour en jouir. Il y a prédisateurs qui ont suivi Georgescu sur cette route. En général, ce point de vue a été négligé parce qu'il pose trop de problèmes. En réalité, la théorie des consommateurs serait plus conforme à la réalité si elle considérait que les besoins ne sont pas réductibles, que la consommation possède une durée et qu'elle ne regarde pas seulement les biens, mais aussi les valeurs de la matrice culturelle de l'individu qui peuvent être extra-économiques. Je répète, les besoins ne sont pas réductibles, sont hiérarchisés. Il n'y a pas possibilité de substitution entre les nécessités fondamentales. Leur satisfaction dépend du contexte social. La consommation a une durée. Et j'ajoute, je voudrais souligner ici l'importance attribuée par Amartya Sen au développement des capacités des individus. Parce que partout les besoins sont perçus. L'économie standard, au contraire, considère tous les besoins comme un unique, générique besoin d'utilité. L'utilité serait l'essence commune que les amalgame. En plus, elle identifie les biens ou les bien-être individuels et sociaux avec la maximalisation de l'utilité. Il y a quelques années, j'ai soutenu qu'on pourrait opposer à ce critère celui de la modération. Dans mes recherches, j'avais trouvé qu'un philosophe du droit, Sloth, avait écrit un article intitulé « Modération, rationalité, virtu ». Il observait que ni les utilitaristes, ni les anti-utilitaristes, ni les auteurs qui n'ont pas de concessions maximisantes signalent le fait que l'individu égoïstique rationnel, en poursuivant certaines fois les biens ou satisfactions mineures, au lien des biens maximes, pourrait poursuivre aussi les moyens plutôt que les meilleurs pour soi. Le terme « satisfying » a été toujours ignoré par les économistes, tandis qu'au contraire, la modération a été exaltée comme la première entre les virtus dans beaucoup de traditions religieuses et philosophiques. Sloth ne soutient pas qu'un individu modéré ne désire jamais ce qui est mieux pour lui, mais que la modération est un penchant, un élément basilaire de la personnalité. Il est clair que dans cette perspective, l'altruisme peut trouver sa place. En tout cas, Altruisme et modération sont des traits qu'il faut cultiver dans l'individu. Ils ne naissent pas naturellement. Leur présence constitue une espèce de progrès humain. Slot nous rappelle la distinction aristotélique entre tempérance, souffrance et modération, métriose. Il pense que ce dernier mot est plus proche à ce qu'il utilise, métriose. Métriose n'est pas un conseil si rationaliste et moraliste comme souffrance, comme tempérance. Pour Platon, le terme métriose identifie la science de la mesure, c'est-à-dire la connaissance plus grande que l'homme doit posséder pour éviter la plus grande ignorance qui consiste dans l'être vaincu par le plaisir. Il y a 30 années, le psychanalyste Fromm observait que la science de la bonne vie, d'une vie valable, n'a jamais identifié le but du bonheur avec le plaisir plus grand, et qu'elle n'a jamais affirmé que l'égoïsme et l'avidité portent à l'harmonie. Cette observation est valable aussi pour les traditions orientales comme le taoïsme et le bouddhisme, dans lesquelles, quand l'homme est assujetti à la mensonge des mayas, cherche seulement son plaisir et se trouve dans un état d'avidia, c'est-à-dire ignorance. Les grands maîtres faisaient toujours une distinction entre besoins subjectifs et besoins valides objectivement. En plus, pour eux, la connaissance essentielle était celle obtenue avec les modalités de l'être, connaître plus profondément, qui est différente de la connaissance avec les modalités du possède, posséder plus de connaissances. Dès son expérience, Fromm avait appris que dans les sociétés actuelles, on réprime la connaissance de ce qui est vrai, c'est-à-dire la connaissance qu'on a inconsciemment, la source à laquelle John Stuart Mill disait que nous posions « the internal sanction of duty », la sanction intérieure du devoir, la conscience. Le principe antagoniste, celui de l'utilité, n'est pas, comme Jeremy Bentham suggérait, le principe ascétique, ni le principe de sympathie ou antipathie, mais celui de la modération. L'ascétisme, en réprimant les désirs, en est possédé, débouche dans le fanatisme. Une chose est nier l'ascétisme, autre chose est nier la modération. Elle peut être la route à parcourir pour rejoindre la joie de vivre, permettant aux autres d'obtenir le même but, et qui, à cause de nos horizons limités, peut mieux sauvegarder les intérêts des générations futures. À la modération peut bien s'accompagner la responsabilité. Les deux conseils sont liés à la croissance, à la réalisation personnelle, laquelle coïncide avec la limitation des désirs d'auparavant et avec la mise en charge de la responsabilité vers soi-même et vers les autres. Si les besoins essentiels sont les mêmes pour tous les hommes et on peut les confronter, alors on peut discuter sur leur ordre d'importance et sur le poids qu'on va lui attribuer. C'est en discutant des valeurs que les personnes peuvent les changer. Hirschman nous rappelle que les ressources morales améliorent avec la pratique, mais peuvent s'atrophier si elles ne sont pas utilisées. Pour en discuter, on doit employer les conseils que Georgescu appelait dialectiques, en contraposition aux conseils arithmomorphiques, parce qu'ils sont conseils mais il posait en garde, le raisonnement dialectique doit être correct, documenté, clair, parfumé et sans préjugés. En résumé, pour conclure, les limites naturelles nous suggèrent des comportements qui visent à leur conservation, surtout dans les pays riches. Soit dans la production que dans la consommation, il faut tenir en compte qu'il y a des limites de substitution. Il faut considérer les phénomènes de la durée, c'est-à-dire les facteurs temporels possèdent de relevance. Le principe de la modération devrait remplacer les critères de la maximisation. En tout cas, je pense que ce serait mieux si chacun de nous cherche à changer ses attitudes plutôt qu'imposer aux autres un modèle quiconque qu'elle soit considérée juste.
Merci.